S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est à partir de cette phrase que se construit le quotidien d'un directeur de centre de profit. Il faut savoir choisir parmi les possibles, laisser la porte ouverte à la nouveauté, jouer avec les contraintes et faire avec les limites. Le responsable du centre de profit manage plusieurs équipes sur des métiers différents. Il a pour objectif de faire du profit par le service ou le produit qu'il vend à ses clients. Leur satisfaction est la clé, la qualité de la production est centrale. Et cette qualité n'est rendue possible que par l'engagement des équipes et par le sens qu'elles mettent dans leur travail. Nous explorerons ensemble le quotidien de ces managers polyglottes de l'entreprise. Je suis Guillaume Leroux-Martineau, bienvenue dans le podcast Le Sens du Profit.
Bonjour Benjamin.
Bonjour Guillaume.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Ouais. Je te remercie de passer sur, cet épisode du podcast Le Sens du Profit. Donc tu es Benjamin Rose, ce que je te propose c'est de commencer par te présenter et après on enchaînera. Donc toi tu as choisi de travailler sur trois cadrans, l'économique, le RH management et le marketing. Donc on va aborder ces sujets-là aujourd'hui. Voilà, je te laisse te
Avec
présenter
grand plaisir.
Et après on enchaîne sur les questions.
Donc je suis Benjamin Rose, co-gérant de quatre entreprises de boulangerie pâtisserie à Vernon dans l'Eure. Co-gérant puisque je travaille dans une entreprise familiale, donc je travaille avec mon papa. Voilà, je suis papa de quatre enfants, j'ai 33 ans, je ne suis pas marié mais ça va venir. Et j'adore mon métier.
Quand tu dis que tu as quatre entreprises, c'est une entreprise avec quatre entités ou tu as quatre boîtes différentes?
Voilà, donc en fait on a une société holding qui gère donc quatre sociétés d'exploitation de boulangerie pâtisserie.
Okay. Et toi, sur la partie exploitation, quel est ton rôle?
Alors, mes rôles sont assez divers. En tant que responsable de centre de profit, on a beaucoup de transversalité dans notre métier, à savoir beaucoup de management malgré tout, du management sous forme plutôt d'échange, de motivation du salarié, de soutien et de faire des rapports entre chaque entreprise puisqu'on a des unités de production qui produisent pour plusieurs points de vente. Et donc une grande partie de mon rôle c'est beaucoup de discuter avec les gens.
T'as combien de personnes aujourd'hui?
Aujourd'hui on a une cinquantaine de salariés comprenant une quinzaine d'apprentis. À savoir dans la région on est l'un des plus gros employeurs d'apprentis de l'Eure.
Tu m'as dit combien, 15 apprentis?
Ouais, entre okay. 15 et 20.
C'est
je pense
choix.
Qu'à la fin on sera plutôt une vingtaine. C'est un choix, ça a toujours été une manière de fonctionner. On est dans des métiers artisanaux qui nécessitent de la main d'œuvre qualifiée. Si on ne prend pas d'apprentis, si on ne va pas dans ce sens-là, on ne risque pas de trouver des collaborateurs pour le futur. Donc oui, c'est un choix.
Ok. Depuis le début, quand tu dis depuis le début, tu peux nous...
Donc une entreprise qui a été créée il y a aujourd'hui plus de 30 ans par mes parents. Ils ont commencé tous les deux avec une croissanterie à Poissy dans le 78. Puis ensuite, ils ont bien réussi. Hein. Quand ils étaient tous les deux, c'était une époque sympa. Ils ont bossé comme des malades, ils sont partis de rien. Mais ils ont plutôt bien réussi leur coup et ils ont eu une envie de revenir justement à une vie un petit peu plus cool, on va dire, en dehors des grandes villes. Et donc, ils se sont installés à Vernon, reprenant une boulangerie en centre-ville. Et 10 ans plus tard, on montait un deuxième point de vente qui était assez innovant à l'époque puisque c'est une boulangerie avec un parking, ce qui ne se faisait pas en grande dans des zones commerciales. Bon, c'était plutôt innovant, donc ça c'était dans les années 2000. Puis voilà, donc ça a roulé comme ça pendant quelques années jusqu'en 2010 où j'ai décidé moi de rejoindre l'entreprise. Par choix d'abord, mais aussi malgré tout une espèce d'obligation sûrement psychologique puisque voilà, je pense qu'ils avaient vraiment besoin de soutien. Le monde a évolué, les choses sont devenues un peu plus compliquées avec plus de normes, plus de contraintes et l'informatique hein, qui est aussi arrivée. Et donc j'ai fait une école de commerce pour ça, donc j'ai fait une classe préparatoire, puis je suis rentré en école. J'ai fait un apprentissage dans l'industrie pharmaceutique, dans un domaine justement très innovant. Je me suis dit, autant aller dans le must de la boîte. Hein. Donc c'était à Neuilly-sur-Seine. Et je suis revenu chez moi justement avec pas mal d'idées pas mal de, j'avais vu pas mal de process, parce que l'idée de gérer une entreprise et un centre de profit, c'est de mettre en place des process, c'est de cadrer les choses. Et voilà, au début, je vous le dis clairement, hein, ça m'a pris un petit peu de temps avant de rouler ma bosse. Hein.
Tu nous parles de process. Est-ce que en quoi le process sur un centre de profit semble essentiel?
Alors, un centre de profit, bon, j'imagine qu'il y a deux types de centres de profit. Il va y avoir une société dans laquelle l'ensemble des activités sont réunies sur un seul site. Première problématique. Donc, des process internes et élaborés dans le sens justement de la proximité des gens. Donc, avec quand même un petit peu plus, à mon sens, de facilité de gestion, puisque les collaborateurs sont sur place. Hein, d'accord. Donc, on va monter une hiérarchie. Qui va nous permettre d'aller dans le sens des projets qu'on s'est donné. Et après, il y a les centres de profit, justement, organisés plutôt d'une manière avec plusieurs entités sous une entreprise qui va, par exemple, de production, qui va amener, comme chez moi, des produits sur divers boutiques. Et là, on est quand même dans quelque chose de plus complexe. Et donc, les process sont obligatoires, elles sont vraiment différents. On ne peut pas hiérarchiser une boulangerie avec ses hommes et ses femmes comme on peut organiser et hiérarchiser une manière de travailler plutôt intellectuelle, dans le sens voilà, des gens de bureau. Voilà. Donc, le process est important dans le sens de la logistique, dans le sens de la communication. Comment on améliore la communication au 21e siècle? Est-ce qu'on continue à se donner des coups de téléphone? Est-ce qu'on se déplace en véhicule? Est-ce qu'on... Voilà, donc il faut créer des process, il faut s'informatiser, je pense, c'est hyper important.
Là, tu parles de la communication interne, du coup.
La communication interne. Après, des process en termes de règlements intérieurs, hein, ce qui vont régir la vie de l'entreprise. Voilà. Et puis évidemment donner des responsabilités à chacun et créer avec eux des procédures, des process pour mener à bien leur tâche quotidienne. Donc le process c'est une espèce de hiérarchie en fait qui est soit informatique, soit qui n'est pas visible en soi. Hein. Le process, c'est quelque chose qui définit, pour moi, la vie d'une entreprise. Elle est hiérarchisée, mais via justement des process qui sont invisibles.
Ok.
On n'est pas l'usine, donc il y a des choses visibles, des choses invisibles.
Ok. Et ces process invisibles, là, enfin les process du coup que on va dire qui structurent la vie de l'entreprise et qui structurent le fonctionnement, tes collaborateurs là pour venir sur le premier cadran RH. Comment ils le vivent et comment toi tu les mets en place, comment tu les fais accepter ces process quand il y a des évolutions, quand il y a des changements de normes, quand il y a je ne sais pas quoi. Enfin,
justement, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire encore. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une entreprise avec peu de turnover. Donc, ce qui nous permet quand même justement d'avoir des process historiques. Hein, malgré tout, et des process qu'on va mettre en place justement sur la gestion de commandes, par exemple, la gestion de commandes de clients extérieurs, des gens qui font du volume, comment on gère ces clients. Donc c'est là que l'outil informatique a été hyper important pour le développement de notre boîte. Si aujourd'hui on s'en sort, c'est parce que justement on a été capable d'être innovant sur la manière de procéder. Process informatique en utilisant des logiciels par exemple gratuits qui nous permettent d'échanger des informations, des ordres de production, des commandes de clients extérieurs qui sont récupérés par telle personne hein, dans le process et puis qui sont ensuite rebalancés à l'unité de production par voie informatique aussi. C'est assez innovant, on voit très peu ça chez les boulangers et justement j'ai l'occasion de faire quelques entretiens d'embauche en ce moment en personnel de production, ils sont assez surpris justement qu'on fonctionne comme ça. Quand ils ont travaillé dans des entreprises, ils ont souvent eu l'occasion de se retrouver avec des commandes par téléphone, des commandes par papier, de gérer leur planning à la main, etc. Et nous, on a essayé justement de mettre en ordre des responsabilités avec des process informatiques et que chacun puisse récupérer toutes ces informations sur une interface, qu'elle soit téléphone ou ordinateur. Toute l'entreprise est équipée d'ordinateurs, d'ailleurs.
Ok. Et aujourd'hui, tes collaborateurs, justement, quand tu les intègres, ils n'ont pas forcément cette culture-là.
Tout à fait.
Comment tu transmets cette culture d'entreprise, du coup?
C'est assez simple puisque finalement, je pense que le process est tellement bon en soi dans le sens de l'économie et du gain de temps que finalement, le pas est franchi très simplement. Alors je dirais qu'aujourd'hui, par contre, effectivement, d'embaucher, là se pose la question de l'âge. Parce que effectivement, quand on veut implanter un process qui est un peu innovant, qui nécessite une compétence, par exemple informatique, on ne peut pas le faire violemment. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais quand même avoir dans mon recrutement des questions autour de justement de la pratique de l'informatique, la pratique de l'usage du téléphone. Est-ce que quelqu'un qui va demain devoir réceptionner un certain nombre d'informations via un téléphone ou via un ordinateur, il faut qu'il soit capable de le faire. Donc, il faut qu'il ait le téléphone qui corresponde ou que je lui fournisse. Il faut qu'il sache utiliser son téléphone, il faut qu'il sache utiliser l'ordinateur. Sinon, effectivement, ça devient quand même un peu compliqué et ça peut être pour moi aujourd'hui un frein à une embauche.
Okay.
Au-delà de la compétence intrinsèque de la personne. Ce qui est dommage, mais ce qui, malgré tout, est une finalité hyper importante.
Mais donc aujourd'hui, dans les compétences, la manipulation de l'outil informatique est une compétence un peu transversale que tout le monde devrait avoir dans
tout
le recrutement.
Tout à
fait. Quoi. Indépendamment, justement, tu parlais de l'âge, mais pour la blague, moi, je connais des jeunes qui ne sont pas très, très bons non plus sur l'informatique et qui ne le voient pas encore peut-être assez comme une compétence nécessaire pour le travail. Quoi.
Je suis d'accord. Maintenant, on parle quand même de choses qui sont très basiques. Mais malgré tout, il y a quand même des collaborateurs qui ont même pas encore de téléphone, de smartphone. Mm. Donc moi, je vous parle vraiment de choses assez basiques. Mm. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas utiliser le simple basique. Donc on va dire qu'un jeune aujourd'hui, dans l'utilisation de mon process, même s'il n'est pas très bon en informatique, tant qu'il sait ouvrir un fichier, taper dedans, importer, ou voilà, enfin, tant que ça reste léger, moi j'ai cherché à faire quelque chose de très léger. J'avais déjà fait une première vague, à un moment où j'ai voulu implanter mon process informatique, tout simplement je me suis confronté à un échec, j'ai subi un échec. Si je vous en parle plus, c'était, si vous voulez, dans mes unités de production, tous les achats étaient régis par les chefs de production. D'accord ? Donc, on va dire que chez moi, j'ai 3 unités de production, grosso modo. Donc, avec différents intervenants. Quand il y en a un qui n'est pas là, c'est un autre intervenant. Et donc, les fournisseurs venaient prendre les commandes en laboratoire. Donc, quand je vous dis fournisseurs, ça peut être 3-4 différents fournisseurs qui venaient physiquement prendre des commandes. Alors pendant, on va imaginer, hein, c'est très simple, hein, vous êtes en train de faire un gâteau et le fournisseur arrive, qu'est-ce que vous avez besoin pour la semaine prochaine, alors temps de fraises, machin, etc. Ça prend un temps fou, le collaborateur n'est pas vraiment dans son travail ni dans les achats, hein, parce qu'il est occupé, donc il va laisser son poste de travail, il va aller voir ce qui lui reste. On pourrait dire qu'il aurait pu préparer sa commande à l'avance. Mmh. Oui, sans doute, mais ce n'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. Et voilà, toute cette situation ne me convenait pas parce que déjà d'une, on peut être aussi... il peut y avoir des amitiés qui se lient avec certains fournisseurs. Donc les prix, le contrôle des prix, ce n'est pas un pâtissier ou un boulanger de savoir exactement à combien il achète. Donc c'est assez général, hein, c'est comme ça que ça se passe dans nos métiers. Donc je me suis dit, ça ne me plaît pas trop. On a des fournisseurs qui sont là alors qu'ils ne nous proposent pas de produits très intéressants, à des prix qui ne sont pas forcément corrects. Et en plus, ils font perdre beaucoup de temps à mes collaborateurs. Donc je me suis dit, tiens, c'est un premier truc, il faut que les achats soient bien gérés, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est la marge. Et donc j'avais promu à l'époque, c'était je pense au tout début hein, que je suis arrivé, donc 8 ans, une dizaine d'années, ouais, parce que ça fait 10 ans que je suis là, donc je pense entre 8 et 9 ans. Et à l'époque, en fait, il n'y avait pas encore les outils que j'utilise aujourd'hui, à savoir les outils en cloud type Google Sheets, donc un Excel en ligne, etc. Donc j'avais fait un fichier Excel. J'ai acheté un serveur, etc., informatique, et donc toutes les entreprises étaient reliées par serveur informatique. Et ça a été un échec. Je n'ai peut-être pas bien expliqué le concept. Ils n'avaient pas encore l'habitude de travailler avec l'informatique. On n'en était même pas encore vraiment au mail. Donc, ça a été vraiment compliqué. Et en plus, il y avait un souci technique qui est complètement idiot, mais qui sans doute pour plein de boîtes, c'était pas un problème, mais pour moi, ça l'était. C'est que quand vous ouvrez un fichier Excel, vous pouvez pas être plusieurs à travailler dessus. C'est que tant que la personne n'a pas enregistré et a quitté le logiciel, enfin, quelqu'un d'autre peut pas l'ouvrir et marquer ses commandes. Enfin, ça a été un échec. Je me suis battu avec eux pour qu'ils. C'est pas parce que pour moi, ça me paraissait super simple. Et non. Donc, on est revenu à la base. Donc, j'ai reçu, moi, les gens, d'accord. Donc, j'ai pris les achats pour ma part. Sauf que, du coup, il fallait quand même que je récupère les achats des commandes de mes collaborateurs. Donc, au final, j'ai fait le travail du fournisseur et...
C'était pas satisfaisant non plus
parce que finalement, j'avais pas forcément des prix extraordinaires, mais par contre, je lui ai enlevé beaucoup de travail. Et moi, je m'en suis mis beaucoup. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai continué à chercher, j'ai fini par trouver la bonne solution. Et puis, mes équipes ont été un peu plus. Ont utilisé de plus en plus l'informatique. Et ça nous a vraiment permis de enfin se développer. Et aujourd'hui, d'avoir une gestion d'achat qui est nickel chrome avec. Donc, deux fois par semaine, tout mon personnel, que ce soit de production, de vente, etc., passe ses commandes, réception des commandes de tous les sites et envoie des commandes en PDF aux fournisseurs. Y a pas de, on fait des négociations mensuelles, semestrielles, peu importe. Et là, voilà, ça roule, c'est simple. Et pour les fournisseurs, c'est le top. Ce qui me permet aussi de dégager des prix plus intéressants, puisque ça leur évite des passages et des volumes plus importants. Voilà. Ouais.
Du coup, tes process. Les process ont l'air d'être vraiment au centre, au cœur du pilotage, la gestion opérationnelle là, des quatre sites. Ça rejoint, il y a deux cadrans que tu as mis en avant, là, économique et RH. Ce que je me note, c'est que tes process aujourd'hui te permettent de cadrer les tâches de tes collaborateurs. Ils te permettent de les faire se centrer sur leur métier en fait.
Et exactement.
De sortir tous les petits aléas du quotidien qui leur prenaient du temps et qui, à mon sens, le pire du pire, te faisaient arrêter tes tâches
tout à
et
fait.
Reprendre, ce qui
tout à fait.
Bouffe un temps pas possible.
Et on est encore au balbutiement, puisque c'est ce que tu dis, Guillaume, c'est hyper intéressant. C'est aujourd'hui, donc on a créé des process qui nous permettent justement, comme tu dis, de les dévouer 100% à leurs tâches. Et l'étape suivante, c'est justement, dans leurs tâches, développer des process pour améliorer la rentabilité de leurs tâches. Et c'est encore un autre travail. Je suis convaincu qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour les aider. Ils sont prêts, ils ont les outils pour, ils ont la compétence pour. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver, donc ça c'est des réunions, etc., des moyens de les aider au quotidien. Aujourd'hui, dans les métiers de la restauration, dans les métiers de bouche, on a des problématiques notamment en termes d'hygiène sécurité qui deviennent de plus en plus importantes. Et ça, il va falloir vraiment... il faut prendre le taureau par les cornes, hein, c'est clair, et trouver des moyens de rendre ces obligations moins contraignantes. Parce qu'elles sont obligatoires, tout simplement. J'ai pas envie de me retrouver dans le cas d'un quick avec un steak haché surgelé qui s'est mal passé, un mort derrière. Il faut être vachement vigilant à tout ça. Je pense que le coronavirus va encore accélérer cette tendance à être le plus propre possible. Donc, mais c'est du temps. C'est du temps et c'est des choses que vous n'aviez pas avant. Pour la même tâche, entre maintenant et il y a 20 ans, il y a tout un tas de choses qui se sont greffées avec un salaire pour le salarié qui n'a pas forcément évoluer proportionnellement, et un prix de vente final au consommateur qui n'a pas évolué non plus. Donc au bout d'un moment, il faut faire des process. Okay. Les grosses boîtes telles que l'industrie pharmaceutique, ils ont bien compris tout ça. Okay.
C'est sur le management, du coup, là on aborde la notion de process, on aborde la notion d'informatique. Pour autant, tu es sur des métiers sur lesquels tu as beaucoup d'apprentis, donc des jeunes qui ne sont pas forcément formés au monde du travail, qui n'ont pas forcément la qualification requise puisqu'ils sont en cours de formation, évidemment. Et en plus, on est sur des métiers qui sont, en tout cas moi c'est la vision externe que j'en ai, un boulanger c'est un métier qui est quand même très manuel, et puis après la vente, en tout cas je suis client chez toi donc je me vois ce que je vois, les vendeurs c'est aussi des gens qui sont en face à face client, énormément du temps de leur temps de travail est dédié à ça. Comment tu fais pour articuler ces logiques de process, d'informatique, de réglementation liée à l'hygiène, etc., avec ces métiers qui sont très techniques et surtout très pris par des tâches, soit manuelles, parce que quand tu fais du pain, mais à un moment donné, tu manipules et tes mains, elles sont prises par quelque chose et ta tête aussi. Et quand tu vends, c'est pareil, tu as ton client, tu n'as pas le temps de penser à autre chose que ta vente.
Oui, c'est une grande question et je pense que c'est un peu là... question que tout le monde se pose dans nos métiers, métiers de bouche, métiers de restauration. Enfin, on ne se pose pas vraiment la question en soi, c'est qu'on sait qu'on est confronté à tout ça et comment on fait, du mieux qu'on peut. C'est surtout ça.
Donne-nous un ou deux tips qui fait que ça marche chez toi.
Faut avoir beaucoup de motivation. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de motivation et il faut... je pense que c'est quand même important de le dire parce que je le constate avec, avec mon père hein, qui est dans l'entreprise, qui va avoir bientôt 60 ans. Ses amis, hein, on connaît quand même beaucoup de gens qui ont entre 50 et 60 ans. C'est des gens qui justement sont plus dans cet optimisme. C'est beaucoup plus compliqué pour eux, ça. Ce qu'on parle là. Parce qu'à la base, c'est vrai qu'ils ont l'impression qu'on ne fait plus le métier pour lequel qu'on a choisi. Hein. Mmh. C'est vrai qu'on... Et même nos salariés, finalement, on leur demande de faire beaucoup de choses qui n'ont plus de rapport avec leur métier. Alors comment on fait ? Eh ben, il faut faire des bons recrutements. Il faut faire des bons recrutements. Des bons recrutements, c'est celui que mon père a fait en m'embauchant, par exemple. Hein. Alors, c'est pas parce que c'est moi, hein. Attention. Ça aurait pu être quelqu'un qui a ce profil. C'est ouais. Quelqu'un de plus jeune qui maîtrise certaines choses, qui n'est pas du métier, forcément. Donc, qui va coûter de l'argent à pas produire. Attention, c'est quand même important. Donc, c'est un investissement. Hein. Et on va payer des gens qui vont justement faire gagner du temps aux autres. Mais il faut pas se tromper. Parce que ça coûte cher de payer des gens qui ne produisent pas. Et tout le monde ne peut pas se le permettre. Et par exemple, dans le monde de la boulangerie, quand on parle, par exemple, des fameux croissants surgelés, il y en a dans la restauration, quand on parle des poches sous vide de produits plat maison, pourquoi les gens font ça ? On sait tous que ça coûte moins cher de faire nos produits maison. Pourquoi les gens font ça ? Simplement parce qu'ils ont beaucoup plus de tâches administratives, beaucoup plus de process à rédiger pour gérer leur boîte. Et à un moment ou un autre, pour rédiger des process qui vont nous faire gagner du temps à la finalité, il faut quand même s'en dégager. Donc on va avoir une tendance à l'utilisation de choses qui ne sont pas de notre de ce qu'on souhaiterait. Hein. Et il faut arrêter dans ça. Donc c'est pas évident.
Je précise sur les croissants surgelés qu'ici, ce n'est pas le cas.
Non, on fait nos croissants maison. On peut encore se permettre. On se donne les moyens.
Parce qu'ils ont fait le bon investissement, j'ai noté.
Mais bien sûr, on a fait le bon investissement. Donc en fait, c'est vachement lié au choix des personnes. Il faut avoir dans ses effectifs, de manière générale, qu'on soit dans des métiers de bouche, etc., ou dans des métiers de production, il faut avoir quand même des têtes pensantes. Quel que soit le niveau de l'entreprise, il faut avoir des gens qui pensent au travail des autres. Au leur et au travail des autres. Et il faut aujourd'hui dédier une partie de son temps de travail à cette cause qui est de toute façon obligatoire. Donc voilà. Bon, tout ça, ça entraîne quand même aussi des choses qui, encore une fois, n'existaient pas auparavant. Je vais vous prendre un exemple tout con. Avant, un entrepreneur classique avait un comptable. Bon, maintenant, il a un comptable. Bon, il a toujours un expert comptable, ça c'est logique. Mais maintenant, il a un avocat fiscaliste. Un avocat social, tout ça, c'est des coûts qui n'existaient pas. Mais si vous voulez réaliser votre travail dans les conditions légales, sans être embêté toutes les 5 minutes et en étant serein, malheureusement, c'est un coût qu'il faut se payer ou se former à justement être meilleur dans ce domaine-là. Par exemple, moi, j'adore ça. Enfin, j'adore ça dans le sens où je sais que si je maîtrise certaines choses, je ne vais pas avoir besoin de faire appel à ce genre de personnage qui te coûte 150 euros hors taxe de l'heure. Donc là, tout le monde ne peut pas le faire. Ça dépend quelle ambition on se donne à un moment ou à un autre. Soit on est un bon producteur et on a envie de monter sa boîte et du coup, on a envie de le faire et on va y consacrer du temps et on va éviter d'avoir trop de main-d'œuvre et on va essayer de gagner de l'argent avec ce qu'on fait sans vouloir développer sa boîte. C'est quelque chose que je trouve formidable et à la limite, on n'a pas besoin toujours de développer. Soit on a envie de devenir chef d'entreprise en utilisant notre propre savoir-faire, ce qu'a fait mon père, c'est-à-dire qu'il était pâtissier, il a eu envie d'utiliser son savoir-faire pour monter des entreprises. Et là, à un moment ou à un autre, il faut s'entourer, il faut apprendre, il faut se remettre en question, il faut se former à d'autres choses que notre métier de base.
Ça me fait arriver sur, justement, il faut se former. Je voulais revenir sur deux choses du coup par rapport à cette idée de formation. Ce volume d'apprentis là, comment tu fais pour... moi j'en recrute des apprentis aussi, c'est compliqué à trouver l'apprenti qu'il te faut au moment où il faut parce qu'il y a des calendriers de formation, parce que les personnes ne correspondent pas forcément, etc. Enfin, de toute façon c'est un recrutement. Du coup comment tu fais pour recruter des apprentis qui correspondent au profil que tu cherches comment tu les accompagnes? Et d'ailleurs, de manière... Une deuxième question sur le recrutement, c'est qu'est-ce que tu vas chercher en priorité chez les gens que tu recrutes, puisqu'on s'est dit qu'il y a deux logiques. Il y a une logique métier, j'ai besoin que mon boulanger sache faire du pain. Mais en vrai, s'il sait faire du pain, c'est pas aussi important, mais il y a quand même, c'est très important qu'il sache aussi manipuler l'informatique. Vu l'équipe que tu as, j'imagine qu'il faut aussi qu'il s'intègre dans l'équipe, etc. Ouais. Donc il y a plein de compétences qui me font dire par moment, est-ce que la compétence, enfin, je veux dire, un boulanger, à la limite, tu peux le former sur son savoir-faire, tu peux l'accompagner. Par contre, sur du savoir-être et sur d'autres trucs, où toi,
c'est bien ce que tu dis, ouais. Parce que justement, ce qui est devenu très important, et on le constate tous, et je pense que tu le constates aussi dans ton métier, c'est que par rapport à avant, maintenant, on consacre énormément de temps justement au savoir-vivre, au savoir-être. Les gens déjà ont besoin d'être accompagnés, ils ont un besoin, un sentiment, ils ont besoin d'être valorisés constamment, ils ont besoin d'être rassurés constamment. Avant, si tu faisais pas ton boulot, on te rentrait dans le chou et puis voilà, tu te remettais en question ou tu te remettais pas en question. Maintenant, si quelqu'un qui fait pas son boulot, tu peux plus agir comme ça. Alors tu peux, hein. Par contre, si tu le fais, tu deviens un patron, un manager que je ne veux pas être, c'est-à-dire un manager à la dure, quoi. Je sais pas être ça. Moi, si demain on me demande pour. Parce que ça marche, hein, je peux vous dire qu'il y a des mecs qui gèrent leur boîte en étant des vrais cons, comment dire, en pensant que de toute façon c'est comme ça que ça doit être fait, ils feront comme ça, ok. Moi, j'ai pas envie de gérer une boîte de cette manière-là. Alors peut-être que ça me coûte de l'argent et que j'en gagne moins et que je vais mettre plus de temps à accéder à ce que je souhaite, mais je l'aurais fait dans une logique qui me plaît à moi et de pas me battre. On va pas se battre avec ses collaborateurs.
Après, t'as peu de turnover. C'est peut-être
et
aussi
en plus,
lié à
j'ai peu de turnover justement pour ça. Ça alors au final,
c'est des gains de temps. Et
c'est des gains de temps parce que finalement, ces managers-là ou ces chefs d'entreprise-là, il faut qu'ils recherchent souvent des employés. Et puis au bout d'un moment, l'image, elle prend cher. Après, alors le choix des apprentis. Dans notre métier, on a quand même une chance en ce moment, c'est que dans les métiers de bouche, on a quand même accompagné pas mal par tout ce qui est émission télévisée. Et ça, c'est un super truc parce que finalement, on commence à avoir des difficultés à recruter. Et là, ça a vraiment rouvert le champ. On est aussi, on a aussi la chance de bénéficier quand même d'une relance de l'apprentissage cette année. Donc ça, financièrement, on se pose un petit peu moins de questions aussi parce qu'un apprenti, ça coûte, mais c'est pas, c'est, je veux dire, ça fait quand même du boulot. Ils font du boulot. Hein. Faut leur consacrer du temps, certes, mais ça fait du boulot. Après, bah, de toute façon, c'est comme tout collaborateur. Un apprenti, ça a une période d'essai. Hein. Si ça ne va pas, bah, au revoir. C'est comme ça. Et puis, je pense que justement, quand on est un patron humain, on va en faire quelque chose de ces jeunes. Si on a un patron à l'ancienne, ce qui marchait très bien à l'époque et qui a permis d'avoir des éléments, par exemple, que j'ai chez moi, qui ont été, qui ont fait des apprentissages à coup de pied dans le cul. Je le dis crûment, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est impensable. Bah oui, maintenant, faut prendre beaucoup de temps à les accompagner, à leur dire que c'est bien. Voilà.
Mais ça marche pas moins bien qu'avant, en fait. En vrai, ça marche. Les gens ont sûrement changé, mais les résultats, ils sont peut-être toujours aussi bons qu'avant, sauf que.
Ouais. Après, t'as l'apprenti qui a 18 ans et t'as l'apprenti qui est sous couvert de ses parents, qui est mineur. Et là, des fois, t'as un peu l'impression d'embaucher le parent et pas d'embaucher l'apprenti. Bon, bah ça, c'est une explication qu'il faut avoir avec les parents, mais les parents sont très protecteurs. On est dans une société de protectrices. Hein, voilà. Bon, après, nous, on est là. C'est ce que je dis toujours aux parents. Nous, moi, mon boulot quand j'embauche votre fils, c'est de le former à avoir son diplôme. Et demain, avoir un métier. Donc, si vous considérez que la manière dont on fonctionne ne vous convient pas, pourquoi ? Si c'est jamais le cas pour une raison de management, justement, à la dure, avec des mots durs, etc. C'est souvent peut-être parce qu'ils considèrent qu'il fait trop le ménage, par exemple. Oui, mais bon, comme dans tout métier, au début, il faut passer par la base. Hein. Dans la restauration, on fait beaucoup la planche quand on est apprenti. Et après, on accompagne. On ne fait pas que ça. Après, il y a des mauvais patrons et il y a des bons patrons. Hein. Donc voilà, faut manager les parents, faut manager les enfants. Maintenant, je suis un petit peu plus strict quand même. D'ailleurs, par exemple, un truc tout con. Quand je recrute un jeune de moins de 18 ans, le parent doit signer le contrat, mais par contre, je ne fais jamais venir le parent en même temps que le jeune quand je le reçois. Il vient après. Parce que quand j'ai toujours remarqué que quand on fait un entretien d'embauche avec un gamin et sa mère à côté, c'est plus sa mère qui parle que le gamin. Donc, j'essaye de faire tout seul avec le gamin et ensuite, je fais intervenir le parent. Et ça, je peux vous le dire que ça marche carrément mieux. Donc, voilà, à ce niveau-là.
Mais c'est à noter que tu embauches des apprentis mineurs. Ouais. Alors, c'est pas possible dans tous les secteurs, mais sur le tien, c'est un. Moi, personnellement, en tout cas, je trouve que c'est un bel effort. parce que en effet,
j'en ai beaucoup en plus.
S'ils sont, ils sont jeunes, il y a évidemment du management de parents qui rajoute de la tâche à la tâche. Et puis ils sont jeunes.
Pour exemple, là en bas, j'ai un gamin qui a 15 ans.
Ok.
Voilà, donc c'est sous des dérogations. Ouais. C'est super parce que c'est des jeunes qui. De toute façon, ils auraient fait quoi? Ils seraient restés sur une chaise à l'école et à faire chez les autres. Donc, parce qu'ils ont une passion. Ils ont une passion et l'école leur permet de faire des stages et ces stages leur permettent de venir finalement faire des essais chez nous et ensuite de pouvoir avoir un boulot. Je note aussi beaucoup d'entreprises qui ne font pas faire de stage aux jeunes. Je vous dis, arrêtez, c'est une aberration. Oui, c'est vrai que ça prend du temps de faire un stage aux jeunes. Mais vous ne pouvez pas refuser des stages à des jeunes et après dire que la jeunesse ne fait pas son taf. Ce n'est pas possible. Il faut être rigoureux dans la vie. C'est, si vous voulez que la jeunesse fasse quelque chose, il faut les prendre en stage. Et je déplore qu'il y a très peu de gens qui laissent les jeunes...
Tu as fait ton master en apprentissage.
Moi, oui, tout à fait. Exactement.
On te sent convaincu.
Je suis convaincu. Il faut ouvrir ses portes. En plus, ça fait de la bonne pub localement quand tu reçois des stagiaires. Parce que les jeunes viennent, alors s'ils font de la production, etc., ils sont fiers.
Ouais. Voilà. C'est noté. Je suis aussi un fervent défenseur de l'apprentissage. Je pense que c'est...
C'est super.
Bah ouais. Et puis, c'est un peu l'avenir de nos collaborateurs.
Bien sûr.
Si on ne les forme pas, ils ne seront pas formés et on pourra toujours râler par la suite parce qu'ils n'ont pas de compétences si on ne les a pas.
Tout à fait.
On ne se rend que plus responsable. Tu voulais aborder aussi le cadran marketing et communication. Alors, on a parlé un peu de communication, mais plutôt sur la logique interne, avec les logiques de process dont on a parlé tout à l'heure. Moi, il y a deux choses. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir sur la communication interne, c'est ta marque employeur. Parce que, alors évidemment, pour ceux qui vivent dans les alentours de Vernon et Saint-Marcel, les boulangeries roses, c'est quand même quelque chose. Donc, tu rayonnes un peu sur le territoire. En gros, quand on en parle, tout le monde sait qui c'est. Donc, comment tu fais vivre cette marque? Et du coup, cette marque externe, mais aussi en interne, comment tu acculture tes collaborateurs et comment, qu'est-ce qu'à ton avis, ça fait d'avoir travaillé ou de travailler chez Rose?
Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On se dit souvent avec mes responsables, quand ça va ou quand ça va pas avec un collaborateur, ou un nouveau collaborateur en tout cas, lui, c'est pas une rose, un rose. Ça veut dire que l'état d'esprit va pas coller.
Je précise que Rose, c'est le nom de famille.
Rose, c'est le nom de famille, ouais. Et on se dit, ça, c'est pas un rose, c'est pas une rose. C'est quelqu'un qui va pas s'inclure dans notre famille. Famille d'ensemble. Hein.
Ah,
donc, on est une famille. Parce que je considère vraiment qu'on est une famille. Nous, on ne laisse pas en galère nos collaborateurs. S'ils ont besoin de quelque chose, on va toujours essayer de faire ce qu'il faut. On se dispute aussi. Hein. On se dispute. Voilà. On a des quelques conflits, des fois, moi-même, avec certains. Des conflits qu'on peut, d'extérieur, considérer comme des conflits peut-être de gamins à certains moments. Mais c'est comme ça. Hein, voilà.
C'est la vie d'une famille.
C'est la vie d'une famille. Donc, je pense que. C'est déjà, bon, il y a quand même 50 personnes ayant chacun, on va dire en moyenne, un enfant. Je résume, hein, parce qu'il y a des apprentis qui n'ont pas d'enfants, mais comme il y en a certains qui en ont 3 ou 4, ça représente quand même beaucoup de gens, en fait, dans le coin. C'est une petite ville. Hein. Donc déjà, je crois que j'avais fait le calcul, j'ai fait ce calcul, il y a 600 personnes, je parle juste d'apprentis, hein, qui ont travaillé chez Rose depuis son existence. Alors, je parle juste d'apprentis et salariés. 600 personnes. Bon, ça commence à représenter. Hein. Mmh. Donc voilà. Il y a peu de turnover, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'apprentis. Et ça, moi, j'ai pris que sur des chiffres que j'avais eus dans les registres de personnel. Donc, c'est sans doute beaucoup plus avec tout un tas de CDD, machin, etc. Et donc, tout ça... C'est des gens qui... On est dans des campagnes où... Parce que c'est une campagne quand même. Hein, où les gens se déplacent pas trop.
On n'a pas présenté au début, mais on est à Vernon dans l'heure.
Voilà, Vernon dans l'heure.
L'aglo, on va dire que c'est Vernon et Saint-Marcel.
On est entre Rouen et Paris, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc, les gens se déplacent peu. Hein, on est dans une région où on reste chez soi. Donc au final, il y a beaucoup de gens qui connaissent quelqu'un qui a bossé chez lui ou chez lui ou chez lui. Voilà, ça va vite. Donc plus on a eu de collaborateurs, plus cet état d'esprit se travaille comme ça. Après, nous, alors... Notre image, comment on la travaille, il y a eu le début. Alors, quand mon père est arrivé, il a fait quelque chose déjà qui était super. Il a importé le snacking à Vernon. Ce qu'il faut savoir, Guillaume, tu ne le sais pas, peut-être, ou tu ne t'en rends pas compte, mais à l'époque, les boulangers, donc déjà les boulangers et pâtissiers, c'était deux métiers différents, d'accord,
ouais.
Donc, les boulangers ont intégré les pâtissiers. Et à l'époque, les fameux jambon beurre, tu les mangeais en brasserie ou en bar. t'allais acheter ton jambon beurre au bar. Quand il arrive à Vernon, justement, donc il s'est implanté en centre-ville, en face, il y avait un bar. Et il y a eu déjà un premier conflit, parce que mon père a lancé le jambon beurre gruyère, le poulet crudité. Et ça ne s'est pas très bien passé avec son voisin, qui est devenu par la suite un copain. Hein, parce que le gars, du coup, vendait plus de jambon beurre, d'accord ? Donc ça, c'était un premier truc, c'est que les boulangers se sont accaparés le snacking. Donc ça a été vraiment sa marque, sa première patte. Il a importé le snacking dans cette petite ville. Ensuite, ça a été d'aller faire des livraisons dans quelques grosses boîtes, etc. Donc développer ses extérieurs. Après, tout est dans la fameuse phrase que disent certains, l'emplacement. Parce que finalement, en ayant une qualité, en ayant une régularité ou en ayant un service correct, ça te permet de te développer. Et donc, on a choisi, je pense, les bons endroits. On a fait beaucoup de radio à l'époque. On avait des 4x3 parce qu'on était positionné que en centre-ville ou que sur deux axes. Maintenant, avec le positionnement dans les endroits les plus vus de Vernon, notre pub, elle est là. Elle est là, c'est nos boutiques, notre pub. Donc j'investirais plus aujourd'hui sur justement faire une belle façade, même un peu flashy, que d'aller faire des pubs dans le journal à 1 000 € hors taxe la pub, qui au final, tu ne sais pas quel va être le retour. Donc l'emplacement, franchement, c'est vrai. L'emplacement, c'est vrai. C'est comme ça, c'est en étant bien placé, rendre service aux gens. Parce que finalement, ils vont chercher... Rendre service aux gens, c'est aussi d'être proche des gens. C'est-à-dire que quand c'était un problème de venir acheter du pain, mon père a eu l'idée de faire ça, une boulangerie avec un parking. C'était une bonne idée. C'était vu, mais ça se voyait très peu. Quand on a monté la troisième boutique, justement, on a refait une boulangerie avec un parking, juste en face d'une grande surface. En faisant du maison. Et là, par exemple, la prochaine boutique qu'on va ouvrir, justement, on va dans une zone qui est dépourvue de pain. Donc, on va encore rendre service. Donc, au final, on devient incontournable. C'est-à-dire que même si tu ne m'aimes pas, à un moment ou à un autre, peut-être que tu es obligé de venir acheter du pain chez moi.
Ah, mais je note, c'est marrant, cette logique de se dire l'emplacement, il est important. Parce que en fait tu facilites la vie aux gens.
Ouais.
C'est pas juste d'avoir un emplacement parce que tu es bien placé, mais en fait le bien placé, il est au regard du service que tu rends au-delà du produit que tu vends en fait.
Tout à fait. C'est comme ça que je vois les choses. Tu rends ce service parce okay. que effectivement tu peux être super bien vu, mais si tu es en haut d'une colline et qu'on peut pas y accéder, ça sert à rien. Après, dans mon métier, il y a des chaînes qui commencent à se développer et eux justement, alors l'emplacement est hyper important, mais ils sont tellement dans une autre dynamique, c'est le prix. Et là, le prix, à la limite, tu le constates aussi toi-même. Il y a des endroits où quand il y a certains qui s'installent, tu dis, mais c'est pas là qu'il faudrait se mettre. Mais c'est pas grave. Le prix va les faire venir. Et donc, peut-être qu'à certains moments, tu peux même pas te permettre forcément d'avoir un emplacement numéro un, puisque de toute façon, avec les prix que tu vas pratiquer, ça sera compliqué de lier les deux. Donc, on essaye toujours d'avoir un emplacement, mais toutes ces nouvelles franchises, alors, dans mon monde, évidemment, les chaînes de boulangerie, dans la restauration, d'autres chaînes de restauration, ils n'ont pas forcément besoin d'être sur l'emplacement numéro un. Le numéro 2 suffira parce que le prix est la première référence.
Ok. Ah, c'est hyper intéressant. Donc en fait, en termes de communication, toi, tu utilises évidemment les façades de tes boutiques puisque tu es sur des lieux de passage.
Oui, tout à fait.
En tout cas, pour même la quatrième qui va ouvrir, elle est quand même sur un gros...
Oui, elle est sur un passage.
Et elle n'est pas loin d'un lycée, si je ne me trompe pas. Du coup, est-ce qu'en termes de com, et du coup, alors du marketing, je ne sais pas si on peut parler de marketing sur la bouffe, là, sur ce que tu proposes, mais... est-ce que tu adaptes ton produit en fonction de ta boutique, par exemple ? Est-ce que tu vends la même chose dans les 4 boutiques ? Est-ce que l'emplacement fait que tu vends la même chose ou pas la même chose ? Est-ce que tu as une typologie de clients qui est différente ? Est-ce que la nourriture que tu proposes, c'est la même qualité en fonction de... Voilà. Comment... parce que là, on parle de marketing sur le produit, mais...
Je comprends ce que tu veux dire. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a... Entre ce qu'on fait et ce qu'on veut finalement... là où on veut parvenir, il y a toujours il y a du temps qui va se passer. C'est-à-dire que je pourrais te dire voilà ce qu'on fait, et en tout cas, c'est voilà ce que j'aimerais qu'on fasse, et il y a du temps quoi, entre tout ça. On va dire que non. Alors déjà, les produits sont-ils les mêmes ? Oui et non. Déjà, le pain, non, absolument pas, puisque chaque boulangerie fait son pain, donc non. Les pains ne sont pas les mêmes puisque c'est la pâte du boulanger. Donc on utilise quand même les mêmes matières premières, mais ce n'est pas la même finalité. En produit, il y a certains produits qui sont les mêmes, effectivement, mais d'autres non aussi, parce que j'ai deux unités de production en pâtisserie. Tout ce qui est snacking, c'est le même partout. Sauf évidemment en fonction de certains endroits, par exemple une boulangerie située en face de Leclerc ou là où il y a un flux de passage, beaucoup d'ouvriers, moins de gens de bureau justement, on va peut-être promouvoir des choses un peu plus, on va dire, comment on pourrait dire, gourmandes. D'accord. Donc c'est là qu'on se rend compte, par exemple ici, que on va pouvoir vendre des panini raclette, des choses un peu plus gourmandes, voilà, qui ne marcheront absolument pas en centre-ville, où on est sur une clientèle plutôt de gens de bureau, banquiers, commerçants, commerçantes, qui vont aller chercher plutôt des choses un peu plus fines. Hein, donc on essaye d'adapter, ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas de temps en temps de balancer certains autres produits. Et puis il faut penser aussi au conditionnement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui prennent et qui vont manger au bureau. Il faut y penser à tout ça, il faut se dire est-ce que c'est pratique pour la personne de manger ce produit à tel endroit, voilà. On n'a pas encore réussi à résoudre tous ces problèmes, hein. Il faut y penser, mais... Effectivement, en fonction aussi de ton parking, en fonction de ton emplacement. Par exemple, sur une boulangerie en face de Leclerc, là, on peut faire le tour du parking. Donc, on peut imaginer un développement de drive, ce qui n'est pas du tout le cas sur mon autre boutique où il n'y a qu'un parking, mais on ne pourra jamais faire le tour. Donc, on n'est pas sur les mêmes offres. On ne va pas apporter le même service. Hein. Et c'est vrai que chaque boutique a quand même son profil. Voilà un truc tout con, quand on va à Saint-Marcel, pour les gens qui sachent, Saint-Marcel, il n'y a pas vraiment en soi de centre-ville. Le centre-ville est en fait lié à la grande surface qui est en plein milieu de cette ville, qui est une ville à pouvoir d'achat important malgré tout, et donc qui va consommer comme une clientèle de centre-ville. Il y a de l'argent, il y a un peu plus d'argent. Sur les extérieurs de ville, comme Leclerc, donc sur cette zone commerciale, on n'est pas sur les mêmes profils. C'est plus des jeunes, comme je vous dis, c'est plus des ouvriers, des salariés d'industrie qui vont pas mettre des sommes folles pour manger le midi. Voilà, donc ils sont sur un autre profil. Donc on adapte quand même effectivement nos produits, ouais, aussi.
Les cartes sont pas les mêmes sur les.
Ouais, non, ouais. Pas tout à fait. Par exemple, mes gammes ne sont pas les mêmes. Okay. Mes gammes ne sont pas les mêmes. Je vais avoir une gamme plus courte de pain bio ici par rapport à d'autres boutiques.
Okay. Voilà. Ici, on est pour le coup en Leclerc. Là,
exactement. Voilà. Exactement. Ça marche un peu sur le principe de Decathlon. Parce que j'ai quand même appris pas mal de choses avec ma femme que j'ai embauchée pendant 4 ans et donc qui sortait de chez Decathlon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Decathlon peut avoir un petit, moyen, grand. Et en fonction de l'emplacement, donc qu'il soit petit, moyen, grand, le rayon est le même. Il y a 20 produits. Si c'est grand, il y a les 20. Si c'est moyen, il y a les 15. Si c'est les petits, il n'y en a que 5. Ils sont très forts, Decathlon. Il y a beaucoup de choses à apprendre de sociétés comme ça.
Ouais, je cherche à interroger un directeur de Decathlon. Si
je peux
quelqu'un en connaît un,
je peux peut-être t'aider.
Allez, on va se mettre d'accord. Après, on va échanger. Ce que je note quand même, ce qui est assez drôle, c'est que à la base, tu me présentes comme, en gros, je gère 4 boulangeries. En fait, dans ce que j'entends, le pain, qui est le premier truc auquel on pense quand on dit boulangerie, il n'est pas hyper présent dans le discours. En fait, ta dimension gestion, elle est quand même, tu fais beaucoup de management avec des compétences qui sortent un peu du technico-technique du pain. Il y a toute cette histoire de où je m'implante, comment je m'implante, quel service j'ai, et du coup toute l'innovation que je mets derrière, parce que, alors c'est sûr qu'on n'est pas chez Tesla en termes d'innovation, mais n'empêche que quand tu parles de l'import du snacking, il faut que je réfléchisse à mon emplacement pour apporter un nouveau service, en local, dans une petite ville, c'est une forme d'innovation. Quand on est sur le conditionnement, alors ce midi, on a mangé des box qui sont quand même... c'est de l'innovation en termes de rendu de service. Tu peux partir avec ta nourriture sans t'en mettre plein la voiture parce qu'elle est dans un carton qui est pratique, qui est simple à ouvrir, etc. Comment tu arrives à lier encore aujourd'hui... là, tu vas ouvrir la 4e boutique. Comment tu fais le lien entre ma baguette qui est, je ne sais pas ce que ça représente sur ton chiffre d'affaires, mais en tout cas, quand on se dit boulangerie, ça doit... pour les gens, c'est ce qui apparaît dans leur tête. Et donc, quand on est boulangerie, comment tu fais le lien entre toutes les innovations auxquelles tu dois penser, toutes les logiques sur lesquelles tu dois t'inscrire en termes de management, de réglementation, etc., et en même temps, En vrai, tu vends du pain.
Ouais, je vends du pain. Il y a... Il y a 15 ans, quand t'allais chez McDo, t'as acheté un Big Mac, c'est tout. Il y avait quoi ? Il y avait le Big Mac, il y avait le cheeseburger, le coca et trois desserts. Aujourd'hui, tu vas chez McDo, t'as 50 sortes de produits, le wrap, la salade, voilà. Donc le produit d'appel, finalement, c'est la baguette pour nous. Hein. Mais malheureusement, on n'en vend plus comme on en vendait avant. Pourquoi ? Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, tout le monde fait tout aujourd'hui. Hein. Tout le monde fait tout. Les restaurateurs font des choses qui étaient faites par les traiteurs avant. Les traiteurs font de la restauration, font de la pâtisserie, font ceci, cela. Donc il y a quand même un gros micmac dans tout ça. Donc quand on se fait pas aujourd'hui forcément plaisir en développant, hein. Faut quand même dire la vérité. Hein. Moi, je préférais être sur une base peut-être beaucoup plus simple du métier d'être boulanger, de vendre dizaines de produits de boulangerie, six produits de pâtisserie, enfin de viennoiserie, et puis avoir quelques sandwichs. On peut plus faire ça. On est obligé aussi de se remettre en question et de toujours aller chercher plus loin. Alors, comment je fais la liaison? Bon, déjà, moi, je suis profondément amoureux de mon métier en soi. Je suis plus, franchement, je vais te le dire, moi, la baguette en elle-même m'intéresse pas en soi. La baguette classique, hein, celle du français, ça m'intéresse pas. Si ça va être bizarre ce que je vais dire, mais si demain j'étais amené à plus en vendre, ça serait très bien. C'est vrai que j'aurais réussi mon pari. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est important la baguette quand même, parce que ça peut intéresser tout le monde. La baguette, comme je disais, tout le monde en fait. On va sur une rue, il y a donc la grande surface en fait, il y a sûrement 3-4 boulangers artisanaux qui en fait, il y a quand tu rentres chez toi, le bar tabac qui fait de la baguette, tout le monde en fait. Donc au bout d'un moment, j'ai plus, moi, de. C'est pas là-dessus que je dois me battre. Moi, je dois me battre sur autre chose. Alors en concernant le pain, par exemple, c'est de développer les pains bio. D'aller sur de la baguette de tradition en premier lieu, ça a sauvé quand même la boulangerie. Ça a clairement sauvé la boulangerie. Hein. Parce que c'est difficile à faire. Tu ne peux pas la faire comme ça. Hein. Et après, des pains spéciaux, bio, etc. Il faut aller chercher des produits plus techniques. Mais tout ça, finalement, c'est des investissements, c'est du temps. Il faut une main-d'œuvre qui a disparu. Parce que malgré tout, de se remettre à faire des pains avec des levains, des mélanges de farine, alors qu'il y a 10 ans, on utilisait des sacs et puis on balançait ça dans un pétrin avec de la flotte et tout fonctionnait. Il a fallu. Moi, j'ai voulu remettre tout ça en question. Alors attention, il y en a qui ont toujours gardé ces systèmes. Hein, il y a surtout encore beaucoup de boulangers qui travaillent en mix, mais il faut que ça change tout ça. C'est aussi la manière dont moi, j'ai réussi à remonter mon image de boulangerie. Et depuis que j'ai lancé le pain bio, j'ai vraiment relancé la boulangerie. Mais je ne vends pas plus de baguettes forcément qu'avant. Hein.
Donc, ouais, quand je dis baguette, c'est le pain en général. Voilà. C'est vraiment que...
Donc en fait, il y a des produits, à un moment, faut les tuer. Mais c'est pas forcément par plaisir. C'était bien. c'était bien. Mais tu comprends aussi que j'ai regardé une courbe qui est hyper intéressante. Chacun, dans son métier, doit à un moment ou à un autre regarder son produit phare et regarder son évolution. Hein. Par exemple, la baguette, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Ils sont toujours en train de dire « Ouais, mais avant, je la payais tant. » Regardez les courbes, c'est disponible sur Internet. Ça fait 10 ans que les boulangers n'ont pas augmenté le prix de leur pain, baguette. Imaginez-vous votre produit d'appel, le produit qui, à la base, vous rapporte de l'argent. Ça fait 10 ans que vous n'avez pas augmenté, à 1 ou 2 centimes près. Et tout ce qui a augmenté en 10 ans. Donc au bout d'un moment, voilà, ce produit d'appel est un produit d'appel, c'est sûr, pour la grande distribution. Quand ils vont la vendre 30 ou 40, mais chez nous, ça se perd. C'est plus vraiment un produit d'appel. L'appel, ça va être rendre du service aux gens pour qu'ils viennent acheter ma baguette. C'est que je vais devoir trouver d'autres subterfuges pour que les gens viennent acheter ma baguette à moi. Voilà. Parce que de toute façon, dans tous les cas, je suis obligé d'avoir un boulanger qui soit là parce qu'il va me faire mon stacking, etc. Mais j'aimerais vendre que des baguettes, ça serait super. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup d'industriels qui s'accaparent des produits artisanaux et qui finalement nous mettent vraiment en difficulté. Okay. Bon, et du coup, je reviens juste sur McDo parce que c'est pas pour leur faire de la pub ou à l'inverse, justement. C'est pour démontrer qu'au final, et pour rassurer aussi les petits entrepreneurs, regardez-les évoluer. Est-ce que vous croyez qu'ils sont heureux d'avoir autant de gammes, de produits et tout un tas de trucs compliqués alors qu'avant c'était les rois du pétrole en vendant 3 sandwichs ? On est dans un monde où il faut toujours se décarcasser aujourd'hui pour gagner de l'argent.
Ouais. J'imagine que ça a toujours été comme ça. Mais... En effet. Cet élargissement de gamme, ces innovations que tu proposes, ça nous amène assez logiquement, j'ai envie de dire, sur le troisième cadran, c'est la dimension éco et sur ton modèle économique. Aujourd'hui, là, tu nous dis, voilà, moi, c'est boulangerie, mais c'est mon produit d'appel, mais en fait, c'est pas par cette porte-là forcément que rentrent mes clients. Il faut que j'offre d'autres services pour que ma baguette, qui a dans le prix n'a pas augmenté, de toute façon, c'est plus la vache à lait que c'était. Et donc, il faut que j'ai d'autres produits pour équilibrer et pour être rentable et mais payer mes 50 salariés, mes 4 boutiques, quoi. Deux questions, du coup. Est-ce que le fait de grossir, c'est il faut que je grossisse pour continuer d'exister ?
Clairement.
Ok. Je vais te laisser développer ça juste après. et la deuxième, question, c'est, alors, je ne sais pas jusqu'à où tu peux et tu veux aller, mais c'est quoi le modèle économique d'un business comme le tien aujourd'hui ?
Alors déjà pour oui, il faut, si tu veux subsister, il faut se développer. Ou alors tu es quelqu'un, comme on a défini tout à l'heure, dans les deux choix d'entrepreneuriat, si tu es quelqu'un de technique et tu veux faire ton métier bien, correctement, parce que tu es un super restaurateur et un super cuisinier, donc tu vas travailler avec ta femme et tu vas travailler avec quelques salariés, tu vas être très bon là-dedans et tu vas pas chercher à grossir parce que tu pourras pas tout faire. Et par contre, si tu décides de déléguer ton savoir, oui, tu n'as plus le choix, faut avancer. Sinon, tu meurs, ça c'est clair. Donc le modèle économique, il est aussi lié aussi aux emplacements. Quand t'es boulanger à Paris, dans une même rue, t'en as 4-5, tu peux faire du monoproduit. Hein, parce que chez toi, on va trouver le pain, chez lui, on va trouver la pâtisserie. Ici, les gens veulent tout. Et les gens veulent retrouver des choses. Les gens voyagent, ils veulent retrouver des trucs à l'américaine, des bagels, des machins. Donc il faut que tu incorpores ça. Donc si on revient à la question de base.
Est-ce qu'il faut que tu grossisses pour continuer d'exister ?
Voilà. Bien sûr, il faut grossir. Alors, il y a deux choses. Tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit « Ouais, je vais monter plein de boîtes, etc. » Mais on grandit tous, hein, on vieillit et on a des enfants. Et puis, on voit le monde évoluer quand même. Moi, aujourd'hui, je vais te dire un truc, mais il faut être très clair. Je n'ai aucune intention de grossir si c'est pour être... si je ne respecte pas l'écologie ou la terre ou les gens. Ça ne m'intéresse pas. Ça sert à quoi, finalement ? À quel moment, si à 50 ou 60 ans, je regarde derrière moi et je me dis « Ouais, c'est bien, t'as fait tout ça, mais au final, t'as écrasé des gens ou t'as pas été propre ou t'as pas fait bien ton boulot », franchement, j'ai aucun intérêt. Voilà. Il y aura une limite à un moment...
On peut préciser ton âge actuel pour que...
33. Voilà. Il y aura une limite à un moment ou à un autre. Donc, je pense que il y a 10 ans, j'étais beaucoup moins regardant de ça. Quand on est jeune, on est égoïste. Hein. Et c'est normal. Il ne faut pas s'en vouloir d'être égoïste quand on est jeune. Je suis tombé sur un... On a discuté avec un jeune, justement, en recrutement. Et on a évoqué ce sujet. Parce qu'il me disait, des fois, je suis un peu égoïste. Je lui ai dit, mais putain, t'as 24 ans. Si t'es pas égoïste maintenant, tu ne sauras jamais. C'est bien. Sois égoïste. Mais à un moment, il va falloir que tu ne le sois plus. Mais c'est normal que tu sois égoïste. Tu penses à toi, tu te construis. Quand tu te construis, tu ne peux être qu'égoïste. Mmh. Si tu commences à, dès 18 ans, regarder à droite, à gauche, non. Il faut avoir quand même un certain égoïsme. C'est logique, c'est la vie. Même s'il faut le cadrer. Donc, grossir, oui. Par contre, la contrainte, je me rends compte aujourd'hui, j'ai quand même, avec cette génération Y, Z... Ça repart à A après. Il y a quand même quelque chose qu'il faut que les gens sachent, ceux qui ne sont pas du tout dans le business, dans le commerce, dans ce qu'ils veulent. C'est quand même vachement compliqué de travailler avec ces gens-là. Ils sont super gentils. Ils sont super gentils, franchement. Mais ils ont un plafond de verre au-dessus de la tête, les nouvelles générations. On ne leur vend pas du rêve à aucun moment. À quel moment on vend du rêve à un jeune aujourd'hui ? Il a un plafond de verre. Il sait que de toute façon, limite, s'il gagne 1500 balles, il est bien. Est-ce qu'un jeune aujourd'hui qui fait par exemple un métier de cuistot ou un métier de... En tout cas, c'est pas général. Est-ce qu'il pense qu'un jour, il va très bien gagner sa vie ? Franchement. Bah, malheureusement, le rêve, il est un peu tué en ce moment. Il est un peu tué pour tous ces jeunes. Il faut quand même être véritable. Même les gamins qui font des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de rêve, quoi. Enfin... Donc ils ont moins envie, ils ont envie de vivre. Donc il faut travailler avec ces gens-là. Donc on travaille avec ces gens-là. Moi je suis inquiet parce que je ne sais pas comment je vais les conduire. Je sais que ça va être plus lent. Donc il faut se calmer, il faut faire les choses bien. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Sinon, bah, toute ta qualité va se barrer. Enfin, ça va être, et si tu es quelqu'un qui... Moi, tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple tout con. On a eu un mois de vacances. Enfin, il y a eu les deux mois de vacances où il a fallu que je fasse partir mes 50 salariés en vacances les uns après les autres. Mais j'étais terrifié à certains moments. Il y a des trucs qu'on a sortis en produit. J'étais pas content de nous. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je peux pas tout faire moi-même. Parce que, bah voilà, il y a moins de monde, on est ouvert, on peut pas se permettre de fermer. Et bah, il faut sortir les produits. Alors, on peut pas dire, on va pas tout foutre à la poubelle, c'est pas possible. Il y a des trucs, j'étais pas content. Et bah, faut prendre son mal en patience et faut essayer de faire en sorte que l'année prochaine, on passe les vacances un peu plus sereinement. Et avec cette génération, ils sont quand même moins attentifs à leur travail. Eux, ils essayent justement de être cool. Parce que de toute façon, comme ils n'ont pas le salaire, ou qu'ils ne l'auront pas, ou qu'ils n'ont pas l'ambition, parce qu'on ne leur a pas suscité qu'ils pouvaient réussir, alors qu'ils peuvent, hein, mais bon, c'est compliqué quand même, bah, ils ne vont pas en plus se faire du mauvais sang. On est bien d'accord, c'est humain.
C'est normal. Et voilà. Mais quand tu n'as pas de perspective,
bah, oui, parce
tu prends le truc au jour le jour et on verra bien.
Et après, on ne peut pas reprocher aux jeunes de ne pas ouvrir la télé, mais à quel moment il faut pas. Regardez pas la télé.
Je suis d'accord. Je reboucle sur ma question initiale, ouais. Sur le modèle économique.
Je ne réponds pas aux questions, en fait.
C'est normal, c'est le jeu. Ouais, sur ton modèle économique aujourd'hui, t'as, sur tes 3 à 4 boutiques, comment tu fonctionnes? C'est quoi ton... Je sais pas, comment il est construit, ce modèle économique? Quels sont les produits phares? Comment tu les mets en avant? Est-ce que tu as une saisonnalité sur ton business? Est-ce que, comment tu adaptes tout ça?
Bon, de manière générale, dans nos métiers, il y a quand même des produits phares qui sont connus et reconnus de tous. Hein. Donc voilà, on a déjà cette base qui est à peu près la même pour tout le monde. Nous, peut-être le plus, c'est qu'on a des grosses boutiques. C'est des grosses boulangeries en termes de taille. Ouais. Hein, ce qui n'est pas forcément toujours bien parce que faut quand même faut les gérer, faut les nettoyer, faut les... Hein. Un exemple tout con, si on va parler vite fait de chiffres, une boulangerie en moyenne en France fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Okay. Un peu moins même. Enfin, entre 250 et 300, on va dire. Moi, ma plus petite boutique fait 700. Okay. D'accord ? On est vraiment sur des structures qui sont costauds. Hein. En consolidé, on a 3 millions d'euros quand même. Hein, sur 3 d'affaires, parce que je n'ai pas encore monté la quatrième, elle va ouvrir bientôt.
On parle de chiffre d'affaires.
On parle de chiffre d'affaires. Ouais. Alors voilà, c'est des chiffres d'affaires avec des baguettes à 1 euro. Hein, donc on ne peut pas... Donc, y a déjà beaucoup de travail là-dessus, du coup, sur 3 entreprises. C'est pour ça que je me dis, mais jamais demain, j'irai mettre une boutique à 15 km de chez moi. Non, sachant, parce que les gens ne savent pas, mais toutes mes boutiques sont à moins de 1 km les unes des autres. Et c'est très bien comme ça.
Stratégiquement, c'est important.
C'est comme je t'ai dit. Donc, le modèle économique, c'est d'être innovant et d'être les premiers à faire quelque chose. Alors que les premiers à faire le snacking, ok. Les premiers à lancer, les bagels, les premiers à lancer les burgers, les premiers à lancer les box, les premiers à lancer des produits régionaux de pâtisserie. On a lancé le Giverny Chéri gâteau de voyage. Les premiers à faire ceci, à faire cela, les premiers à se lancer dans, du click and collect. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas qui le font en boulangerie. Peut-être qu'il y en aura un qui le fera avant moi, mais c'est pas grave. Et c'est d'être les premiers toujours à faire quelque chose. Il faut essayer d'être toujours le premier.
Okay.
C'est ça le modèle économique, c'est d'essayer d'être toujours le premier. Alors, par contre, ce qu'on ne sait pas trop faire, et ça, il va falloir qu'on travaille, c'est que quand on lance un truc qui marche bien et qui marchera moins bien après, on a du mal à retirer le produit. Donc, des fois, ça fait un peu des gammes à rallonge, et ça, je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Beaucoup de produits.
Tu tues certains produits.
Il y a des produits qu'il faut qu'on tue, c'est clair. Et alors là, mon nouveau cheval de bataille, clairement, c'est que je veux utiliser de plus en plus de produits locaux. Alors c'est à la mode, ouais, ok. Mais moi, je suis un consommateur de produits bio déjà. À la base, je consomme bio, pas 100%, parce qu'on ne peut pas forcément faire 100%. Mais je voudrais travailler, par exemple, on travaille beaucoup de steak, hein, de steak haché, surgelé, charal, bref. Je ne veux plus utiliser ce produit. Concrètement, je ne veux plus. Déjà, je suis pas un gros mangeur de viande et je trouve que bon, pour la planète, c'est pas terrible de manger de la viande. Donc là, je me suis rapproché d'une ferme qui est à 5 km de Vernon avec qui je vais essayer de travailler la viande. Voilà. Alors, pourquoi je vais dire essayer? Parce qu'il faut que justement le modèle économique va-t-il me le permettre? Est-ce que financièrement, je vais pouvoir acheter sa viande, pas trop impacter le client sur le prix? Parce que je serai obligé, à mon avis, de l'impacter. J'ai pas encore l'eau de vie, j'ai pas encore les. Il faut pas rêver.
Ouais, c'est la discussion qu'on avait ce midi. La problématique, c'est de se dire nos clients gagnent ce qu'ils gagnent et donc un pouvoir d'achat qui est restreint. Du coup, nous, on aligne nos prix, non pas sur le prix qu'il faudrait qu'on vende, mais sur le prix dont ils ont les moyens pour acheter ce qu'on vend. Ouais. Et du coup, bah, y a deux solutions. Soit on dégrade la qualité du produit, soit on dégrade les conditions de travail des salariés qui sont derrière. Mais à un moment donné, on peut pas... Voilà, il y a un prix et nous, on a un... bah, bien sûr, d'affaires, ouais, en face, et donc du coup on peut pas faire, donc
c'est
pas faire les deux, quoi.
C'est pas évident, c'est pour ça que c'est pas, pour le coup là, cet exemple là c'est pas gagné, c'est pas gagné, okay. Faut voir,
en tout cas la démarche est là, quoi.
La démarche est là, et j'ai envie. Alors après, je pourrais très bien faire le choix d'avoir deux produits différents. C'est-à-dire d'avoir un burger avec un steak surgelé et un burger avec... Et en fonction des emplacements, on peut dire, bon, bah, là, je mets ce produit-là, puis là, je mets un autre. Parce qu'il y a aussi dans la communication... Alors, la communication, c'est important sur le local. Je ne le fais pas pour la communication. Il faut quand même être clair. Et je suis très, honnêtement, hein, je ne le fais pas pour la communication. Mais si tu fais un produit local, autant que tu le dises, hein, ça te ramène quand même des gens. Si demain je fais à un seul endroit, je pourrais quand même communiquer globalement sur le fait que je travaille avec cette personne. Bon, bah, ça suscitera un intérêt, et peut-être que les gens du coup vont me réclamer dans les autres boutiques ce produit là et du coup je dirais, bon, bah, je vais quand même le lancer. Donc voilà, ça se fait petit à petit, hein.
Ok, d'accord. Comme tu dis là, ce que je note aussi, c'est que tant tout à l'heure dans la communication et là sur les modèles éco, c'est que en fait il faut savoir prendre son temps, il ne faut, ouais, pas vouloir tout de suite.
Mais de toute façon, Guillaume, si on veut tout de suite, soit on a beaucoup d'argent et on va aller vite, mais par contre, à terme, de toute façon, ça ne sera pas forcément plus rentable, soit on meurt. Il faut quand même dire les choses. Moi, je suis frustré tous les jours. Quand je me lève le matin, je suis frustré. Ouais, je suis un jeune frustré, des fois, sur plein de choses. Tu vois, l'année dernière, on a fait une super année. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une belle année comme ça, où on a vraiment... Mais on a beaucoup travaillé, hein. Tout le monde a beaucoup souffert, parce qu'on a fait vraiment beau boulot. Et là, bam! Donc, ce qui me permettait de dire, on va enfin pouvoir faire les investissements qu'on attendait depuis longtemps. Et là, bam, le coronavirus arrive. Mais la frustration... Et je crois que la frustration est encore plus dure quand on est jeune, justement. Quand on n'a pas vécu beaucoup de choses, ou quand on a déjà vécu des choses, mais pas de la même manière. Là, ouais, moi, franchement, ça m'a mis un énorme coup sur la tête. Mais en même temps, je me dis, voilà, je suis pas le seul, tout le monde l'a vécu, on est tous au même niveau, on a tous été frustrés. Mais il faut pas vouloir aller vite, parce qu'on va faire des erreurs, et surtout, on va être frustrés.
Encore plus que si...
Encore plus.
Ouais, carrément.
Encore plus, parce qu'on va faire tout un tas de conneries, et on va se dire, putain, mais si je l'avais fait autrement, on n'en serait pas là.
Ouais. Prendre son temps.
Donc voilà, mais essayez de pas être frustré, il faut essayer de, okay, pas être frustré, il faut rencontrer les autres. Alors, des fois, ma femme me dit quelque chose, ouais. Alors, l'important quand même aussi, Guillaume, c'est de pas, il faut surtout pas devenir aigri, parce que la frustration égale devenir aigri. Je ne veux pas devenir aigri, je vois trop de gens aigris. Donc il faut partager, il faut avoir des amis, il faut sortir, il faut essayer de partager avec des gens, faire ce que tu fais, rencontrer des gens qui ont d'autres métiers, et puis de se rassurer à des moments, se dire, bon, ça va, quoi.
Ça va.
Ça va.
Ok. Pour conclure, là, ça fait, j'avais dit une heure, évidemment, on a dépassé. J'ai plusieurs questions là, par lesquelles j'aime bien terminer. Justement, quand tu parles de sortir, d'avoir des amis, etc., c'est ma première question, c'est ton passe-temps extra-professionnel. Comment tu gères ton extra-pro, parce que tu es un directeur de centre de profit, certes, mais tu es aussi en plus entrepreneur, donc tu as un peu cette double casquette. Alors déjà, moi, je ne suis que directeur de centre de profit. J'ai du mal à pas penser au boulot quand je n'y suis pas, mais c'est pas mon argent que j'ai mis dans la boîte, quoi. Toi, tu as les deux. Comment tu fais à un moment donné pour couper? Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour couper?
Moi, je suis un gros fêtard.
Je le savais, alors, mais je l'ai pas dit.
En fait. Je suis un. Alors j'aime bien le dire, parce que c'est la vérité, en fait. Donc je suis assez un fêtard. Donc en fait, ce qui des fois pose aussi un petit peu de problème à la maison, parce que j'ai quand même 4 gamins aussi. Donc entre le fait d'avoir du travail, les enfants, les problèmes de boulot, et j'aime bien recevoir mes amis souvent. Voilà. Donc c'est chacun a sa façon de voir les choses. Alors par contre, encore une fois, on grandit, ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois maintenant, je me suis mis vraiment au sport. J'ai trouvé mon truc, ça y est, je fais du fitness via une application, parce que c'est le plus simple pour moi, c'est de le faire avant, le matin, avant de partir au travail. J'allais à la piscine, c'est ça qui m'a lancé aussi. Donc comme la piscine a été fermée, il a fallu que je continue, parce que la piscine, ça m'a vraiment, franchement, j'adorais, ça m'a vraiment permis de... Donc du coup, je me suis mis à faire cette application pour pas perdre le rythme. Du coup, je vais pouvoir refaire de la piscine. Et donc voilà, c'est les sortir, Faire du sport, je pense que c'est hyper important. Maintenant, je demande à mes potes de faire du sport. Alors, par contre, je sais pas, faudrait me voir, je suis pas tout maigre. Hein. Justement, quand on fait la fête, il faut faire du sport. Parce que sinon.
C'est l'obligation.
Sinon, bah voilà, faut compenser. Hein. Pour se faire plaisir, il faut se donner les moyens, donc il faut faire du sport. et puis la famille, évidemment.
Ouais. Oui, j'imagine.
Mais par contre, tu vois, je suis pas quelqu'un, je suis pas shopping. Dépenser de l'argent dans des trucs, je sais pas, comme ça futile, non. Ouais. Moi j'aime bien acheter de la bonne bouffe et j'aime bien parler avec les gens, c'est ça, j'aime bien parler avec les gens en ville. Je vais voir mes commerçants, parler avec les gens, voilà.
Okay.
Parler avec toi, par exemple.
Par exemple. Okay. Je précise que la piscine que je dirigeais avant est à 500 mètres de la boulangerie Rose, voilà. Du Leclerc.
C'est pour ça qu'ils font beaucoup de piscines, les gens.
Est-ce que tout à l'heure tu parlais des outils informatiques, etc. Est-ce que toi tu as un outil perso? Alors on entend l'outil et l'appli pour le fitness. Est-ce que tu as des trucs, un outil ou une appli perso que tu utilises au quotidien?
Ouais.
Qui pourrait être intéressant à partager?
Apple Music.
Okay.
Pourquoi avec... intéressant? Parce que c'est la musique, c'est la vie. Hein.
Ouais. Okay.
C'est avec ça que tu te vides la tête. Apple Music. Ouais, okay. Voilà, bon, moi c'est parce que j'ai un téléphone, j'ai pas un Android, mais après c'est Spotify.
Oui, oui, oui. Ouais.
Il faut utiliser très souvent.
Je précise que le podcast est dispo sur Apple Podcast et en plus sur Spotify.
Voilà, donc ouais, celle-là.
Ok, très bien. Est-ce que t'as une routine? Alors là, tu nous disais que tu fais du sport avant de partir au boulot.
Ouais.
Est-ce que t'as d'autres routines dans ta journée qui rythment un peu et qui...
J'aime bien boire des cafés.
C'est quoi, c'est hyper important. C'est la pause? Ouais, non, vraiment?
Ah ouais. C'est vraiment, j'aime bien boire le café le matin avec un confrère qui est en centre-ville, voilà, donc voilà, je fais le tour des boulangers, j'aime bien boire le café avec mes salariés,
ouais.
Et ça, ouais, boire des cafés, j'aime bien.
Ok.
Bah, comme on disait tout à l'heure, une partie de mon travail, c'est aussi de discuter avec les gens, de les motiver, ouais. Donc autour d'un bon café, c'est bien.
Ok.
Mais pas trop, parce qu'au bout d'un moment, ça,
ouais, faut tirer.
Ça monte à la tête.
Ouais, c'est ça. Et... Alors l'innovation, ça fait un peu partie de ton ADN, j'ai vraiment cette sensation-là, là, après une heure de discussion, il y a beaucoup de choses qui reviennent sur cet axe-là, mais du coup, comment tu progresses? On a entendu que tu discutais avec les gens, que tu es une source d'inspiration. Est-ce que tu as d'autres axes, enfin d'autres moyens d'aller chercher de la progression? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu regardes des vidéos sur YouTube? Est-ce que...
Énormément par le téléphone, ouais. Franchement,
ouais, tu lis.
Ouais. Je lis, ouais. Par le téléphone. Ouais, ouais. J'utilise beaucoup de. J'aime bien aller. C'est un truc tout con, mais j'aime bien être dans mon lit et puis me renseigner sur un phénomène et puis d'aller vraiment dans le fond du truc. Okay. Donc le lire. Hein.
Ouais.
Après, est-ce que je suis un lecteur de journaux? Non, sincèrement, non.
Okay.
Faut pas dire ça. Je pense qu'on m'en a trop fait lire quand j'étais à l'école et que ça m'a. Non. Non, puis j'aime bien cibler les sujets que je connais pas, ouais. Justement. Et je trouve que. Enfin. Beaucoup passe par la culture, finalement, dans la réussite ou dans... La réussite, c'est ça se fait pas tout seul, ça se fait avec les autres. Et si tu sais pas discuter avec les autres, tu réussiras jamais.
Ouais.
Ou alors tu seras pas heureux. Et il faut avoir des sujets de conversation. Et d'avoir des sujets de conversation, c'est d'avoir de la culture générale, plus ou moins approfondie. L'important, c'est de connaître que quelque chose existe. Après, que vous sachiez exactement la finalité de telle ou telle chose, c'est pas grave. L'important, c'est pas possible. L'important, c'est d'être intéressé un peu partout, essayer de s'intéresser. Et si vraiment il y a quelque chose qui m'a vraiment permis de grandir, c'est d'avoir fait, je détestais ça au lycée, mais j'ai adoré ça en prépa, c'est la philo, vraiment, mais la vraie philo, hein, et l'économie évidemment. C'est des sujets, philo et économie, ils sont assez liés finalement, on ne s'en rend pas compte, mais quand on fait des études, bon, on le voit. C'est des sujets qui vous permettent de développer sa curiosité. Il faut être curieux de tout, de tout. Voilà. Et même si on ne peut pas se rappeler de tout, si on est curieux de tout, on ne pourra jamais se rappeler de tout. C'est pas possible. Mais l'important, c'est de savoir. Ouais, je sais que. Ouais, 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 j'ai vu que. Oui, je connais, mais je ne sais pas. Tu peux m'en dire plus. Voilà. D'être intéressé aux gens.
Ouais, la curiosité.
De s'intéresser aux gens.
Dans 5 ans? On se revoit là, sur cette table, déjà, je sais pas si ça sera encore là, mais...
9 enfants.
C'est quoi le projet?
Bah écoute, dans 5 ans, si tout se passe bien, ce que j'aimerais, c'est que tous les problèmes d'organisation, de logistique auxquels on est confronté, déjà soient réglés, hein, ça serait bien. Que mes boutiques tournent, les 4, correctement. Peut-être que mes 1 ou 2 autres projets de boutiques qui sont localisés, au moins une, se soit passée ou soit en cours de se passer. Et peut-être après, bah, si tout ça, ça va, peut-être une diversification d'activité.
Okay.
Moi, j'aimerais un jour diversifier mon activité. Alors, ça serait par soit une idée, parce que j'ai des idées sur d'autres projets, vraiment des trucs, des fois peut-être un peu liberlu ou pas, et pas tout seul, le faire peut-être avec des gens à qui j'ai confiance et faire une expérience, une aventure autre.
Ok, cool, très bien. Je voudrais finir par ça, parce que j'ai noté trois trucs qui me paraissent vraiment importants. C'est marrant parce que ça reboucle, ça revient souvent en fait dans ton discours. C'est, t'es frustré, ça tu l'as dit plusieurs fois, et la frustration c'est quelque chose d'important, mais à se demander presque si c'est pas un moteur en fait, ou si c'est pas le signe du frein que tu te mets pour pouvoir avancer sereinement. Il y a vraiment une espèce d'équilibre là qu'on dirait que tu trouves entre j'ai envie de développer, j'ai envie d'initier de nouvelles choses, et en même temps, il faut que je prenne le temps parce que sinon, je vais dans le mur.
De toute façon, tout est une question aussi d'argent dans la vie. Hein. À un moment ou à un autre, tu peux pas. C'est comme quand tu veux t'acheter une maison et qu'il faut que tu attendes avant de pouvoir le faire parce que le banquier t'a dit non. Hein. Ou quand tu veux refaire ta salle de bain parce que tu en auras le bol, mais que bah, c'est pas tout de suite, donc tu es frustré. Hein. Et bah, l'entreprise, c'est pareil. Tu peux pas tout faire. Encore une fois, à moins que tu aies crédit 100%, tu peux y aller, mais tu feras pas quelque chose de bien. Je pense que tu fais des choses plus sérieuse et peut-être mieux dans une difficulté. En tout cas, ce que je sais et ce que j'aurais appris dans cette entreprise, parce que malgré tout, c'est une entreprise dans laquelle j'exerce. Hein, l'entreprise, c'est un support pour soi. Enfin, ça n'est qu'un support dans tous les cas. C'est aussi une question financière aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut le faire dans la mesure. Si on veut être à long terme, il faut savoir prendre des risques, mais se limiter.
Ok. Je note aussi que la curiosité et l'innovation, je pense qu'il y a aussi évidemment un lien là-dedans, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ton discours. Je trouve que c'est trois choses en tout cas qui me parlent, et sur la direction de centre de profit, c'est quelque chose, des choses qui me paraissent être importantes. Il faut être curieux pour voir ce qui se passe ailleurs. Il faut innover parce que sinon, comme tu dis, ça va être compliqué de maintenir le modèle. Et puis en même temps, bah ouais, il y a des contraintes et il faut faire avec, parce que voilà. Et si ça génère de la frustration, bah, bienvenue dans la vie, quoi.
Exactement.
C'est ça. Et bah, super. Merci beaucoup, Benjamin.
Bah, merci, Guillaume.
Je te remercie pour cette grosseur d'échange et je te dis à très bientôt.
À très bientôt.
Si vous êtes encore là, merci et bravo d'avoir suivi l'ensemble de cet épisode. Partagez ce podcast à un maximum de personnes, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre appli de podcast préférée, avec un super commentaire s'il vous plaît. Retrouvez-moi sur Instagram ou Medium. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.